vous l'avez bien connu. Vous l'avez bien connu, une émission sans contrainte ni personne, vous l'avez bien connu, proposée par Ambroise Perrin. Épisode numéro 105. Pas de quartier pour le latin, Christian Gouillard, tarte tatin. Chers amis, bonjour. Odi Christianium Gouillartum, Magistrum Literarum Classicarum Accipimus.
Ah ouais, illustrissime Ambrosi, mi maximo gaudio est te conveniere.
Et magnae partis linguae latinae oblitus sum, nunc autem memini, Gallia est omni divisa in partes tres, quorum unam in colum belgae, aliam Aquitani, tertiam qui ipsorum linguae celtae.
Optime, optime, video te impigrum discipulum fuisse, sed civis ad linguam gallicam redeamus.
Ita est. Bonjour Christian Gouillard.
Bonjour Ambroise Perrin.
Alors, pourquoi en 2025 est-il absolument indispensable que l'on étudie encore le latin ?
J'aimerais que ce fût indispensable, effectivement. Je dirais que la meilleure raison, c'est de pouvoir lire Astérix comme on doit le lire.
C'est... Oh là là, mais ça, c'est une réponse un petit peu comme ça...
Irrévérencieuse.
Non, mais c'est une blague, parce qu'en fait, on va parler de l'étymologie, de la langue vivante. Alors,
oui.
On va d'abord peut-être vous présenter. Vous êtes prof de latin au Fustel de Coulanges, donc tous les élèves qui écoutent Radio Judaïca Strasbourg vont dire « Je l'ai bien connu !»
Effectivement.
Hein, vous avez combien d'élèves ? Vous avez compté ?
Je fais un rapide calcul mental.
Trois classes, une centaine par année.
Oui, c'est ça. Alors, pendant combien de temps ai-je sévi à Fustel pendant 27 ans. Ouais, donc.
Ça fait 3000 élèves.
Pas loin, hein. Pas loin.
Ouais. Ouais, pas mal. Bon, oui. Alors, vous pouvez lui écrire à la radio et lui dire toute la reconnaissance que vous avez d'avoir appris le latin avec lui. Mais alors. Pourquoi est-ce qu'on étudie encore le latin en 2025 ? Parce qu'il y a encore des classes de latin.
Oui, alors c'est un peu la peau de chagrin quand même. Hein. D'une part parce qu'il y a la concurrence légitime d'autres disciplines. Et puis d'autre part, la République n'a pas beaucoup de sous et a tendance à supprimer un certain nombre d'enseignements qui ne sont pas immédiatement rentables. Et le latin répond malheureusement à cette définition.
Mais de votre temps, si je peux me permettre, on apprenait le latin presque de façon automatique parce qu'on était un bon élève ?
C'est un peu ça. Effectivement, les bons élèves qui ne faisaient pas de latin étaient une certaine exception qu'on regardait un petit peu.
Et les super bons élèves faisaient du latin et du grec ancien.
Voilà, c'est ça. Oui, il y avait...
On commençait le latin en sixième,
oui.
Et si ça marchait bien, en cinquième, on enchaînait avec le grec. Hein. Je crois que c'était comme
oui,
ça.
En quatrième, enfin,
En quatrième.
Absolument. Oui, il y avait effectivement les super matheux qui faisaient latin grec en plus. Alors, je précise que moi, je n'étais pas un super matheux.
Et helléniste et matheux, oui.
Oui, ça. Alors, une des raisons qui peuvent pousser à faire du latin... c'est qu'il y a quand même une certaine exigence de rigueur qui est commune aux mathématiques et au latin. Quoi, ça, c'est sûr. Et assez souvent, les élèves qui étaient bons dans une discipline l'étaient aussi dans l'autre. Alors, cela dit, je suis une regrettable exception à la règle parce que je n'étais pas bon en maths. Mais je n'étais peut-être pas si bon que ça en latin non plus, en fait.
Oh, si, quand même. Non, mais alors, peut-être que vous aviez la vocation d'être prêtre. Hein, et c'est ça. Et donc, bon, c'était avant Vatican II.
Hein, oui, c'est sûr.
On faisait la messe en latin. Et peut-être que c'était ça. Non. Mais je crois que vous aviez une copine tout de suite, très très jeune, qu'on connaît bien à Radio Judaïca. Donc,
oui, je n'ai jamais vraiment songé à entrer dans les ordres. Non. C'est sûr. Mais il est certain que c'était le Concile de Vatican II en supprimant donc le latin des offices catholiques, lui a porté un coup fatal, hein, ça c'est sûr. C'est...
Ah oui.
Il y avait une tendance lourde.
Bon, c'était pas forcément les catholiques qui faisaient du latin, c'était tout le monde.
Oui, enfin, si je me souviens bien, c'est en 63 qu'il y a eu ce concile qui a donc décidé qu'on dirait la messe en langage vernaculaire.
Paul VI, hein,
oui. C'est Paul VI, hein, c'est ça, oui. Et enfin, Brassens, qui n'était pas spécialement religieux, a protesté, n'est-ce pas ? Sans le latin, la messe ne vaut rien. Je ne vais pas vous le chanter parce que j'ai peur de faire pleuvoir.
Oui.
Enfin bon,
oui, oui.
Ça a perdu un petit peu de cette poésie mystérieuse, sans aucun doute.
Oui, mais c'est aussi la transmission d'une culture. Bon,
oui.
À la synagogue, on prie bien en hébreu.
Tout à fait. Hein,
donc,
oui.
Pourquoi pas...
Oui, peut-être que certains se sont coupés de leurs racines, justement. Bon, cela dit, le latin, c'était la langue de l'Église, c'était pas forcément la langue originelle de la religion chrétienne, c'est comme plutôt du grec, hein, pour les évangiles, et même l'hébreu, puisque c'est aussi sur l'Ancien Testament. Donc, il y a peut-être moins de sacralité du latin pour les chrétiens que l'hébreu pour les juifs, c'est possible, je ne sais pas.
Alors, moi, j'ai arrêté le latin en troisième,
ouais.
En rentrant en seconde. C'est, je crois, le cursus habituel pour les lycéens.
C'est assez fréquent maintenant, oui, oui, majoritairement, oui.
Oui. Oui. Mmh. Mais vous êtes allé jusqu'en terminale avec le latin, et ouais. Après, vous avez fait des grandes études, la rue d'Ulm et tout ça,
ben oui.
en latin.
Tout voilà. À fait, oui, oui.
Et est-ce que,
je plaide coupable.
Quand est-ce que vous avez su que vous seriez prof de latin ?
Relativement tôt, je dirais, à la fin de ma première année de supérieur. Bon, en fait, j'étais entré en hippocagne à Nancy dans la perspective de faire une espèce de propédeutique pour me présenter à l'ENA ensuite, enfin Sciences Po et l'ENA. Bon. Et puis finalement, je me suis un peu piqué au jeu. Enfin, donc, et je me suis dit qu'après tout, oui, prof, à condition que ce soit dans le supérieur, ça pourrait être intéressant. Et puis, je suis vraiment pris d'amour... pour la littérature, ce qui n'était pas vraiment mon cas.
Et vous êtes pris d'amour également pour Dominique, Madame Dominique,
oui, alors que
qui est aussi prof de latin et que nous avons reçue il y a quelques semaines, parce qu'elle écrit des polars. Et j'avais dit, comment est-ce qu'une agrégée de latin peut écrire des policiers rénans, des enquêtes rénanes? C'était très drôle, elle est formidable. Moi, j'encourage les auditeurs de Radio Judaïca Strasbourg d'écouter en podcast son émission, hein, Dominique Gouillard. Et là, nous avons Christian Gouillard. Donc, vous êtes lancé dans le latin parce que vous étiez amoureux, ou est-ce que c'était elle qui s'est dit... Faut que...
ça devient délicat, là, ça devient délicat.
Oui.
Bon, pour être franc, mon amour du latin a précédé un petit peu l'amour de mon autrice favorite, mais pas énormément, de 2 ou 3 ans, quoi, disons. Nous sommes rencontrés, en fait, à l'ENS. D'ailleurs, à l'époque, nous n'étions guère que de bons camarades, sans plus. Que c'est...
Mais alors, est-ce que vous pourriez dialoguer en latin tous les deux ? Est-ce que vous avez essayé ? Est-ce que vous l'avez fait ?
Oh, pendant 2 ou 3 minutes, oui, pour rire, effectivement.
Et ça marche bien ?
On se comprend.
On se comprend.
Déjà pas si mal entre nous.
Voilà, voilà. Alors, on dirait mon amour, épluche les pommes de terre. Non, ça... Non.
Bah, les pommes de terre, on aurait du mal. Hein,
oui, 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 parce que M. Parmentier est arrivé après.
C'est ça.
Mais,
on peut effectivement donner quelques petites indications ou injonctions de ce style. Mais à vrai dire, nous sommes plus habitués à disserter des grandes questions, même en couple. Quelle est la meilleure forme de gouvernement ? Ou bien sur l'immortalité de l'âme ?
Oui,
là, nous avons...
Donald Trump, qui ne parle certainement pas le latin, ça, il aurait une autre culture.
Oui, ça me paraît assez peu probable.
Oui. Est-ce qu'aux États-Unis, on apprend le latin ?
Un petit peu.
Oui.
Alors, d'ailleurs, à ce sujet-là, c'est vraiment élitiste. Hein. De nos jours, ça le devient malheureusement de plus en plus par la force des choses. Mais au latin, il y a vraiment les happy few, hein, very happy few qui font les gens. Mais il y en a encore. Et justement, là, je voudrais rebondir sur l'incipit, encore un mot latin d'ailleurs, de la guerre des Gaules. Donc, Gallias est omnis divisa in parte stress. Quand j'entends ça, j'ai tendance à le prononcer avec l'accent anglais. Parce que les érudits anglo-saxons, et notamment américains, ce qui est assez surprenant, lorsqu'une chose est divisible en trois, presque automatiquement, on a tendance à dire « like gold, this thing is divided in three parts », etc. C'est un peu comme Flaubert, qui je crois vous est cher, cher Ambroise, qui disait « ne jamais allumer une lampe, n'en dire fiat lux ». Dès qu'il y a un truc qui peut être divisé en trois, qui est tripartite, c'est vraiment Galia est omnis.
Oui, mais alors c'est une langue un peu rigolote, alors finalement, le latin.
Ça peut l'être.
Ça peut l'être, ça oui. Peut l'être. Est-ce qu'on invente encore des mots en latin? Comment, alors, comment on dirait ordinateur en latin?
Alors, je ne sais pas trop.
Bon, faudrait... pomme de terre, vous ne saviez pas, mais...
ordinateur, oui, ça, je... Mais je pense qu'on pourrait le savoir. Oui. Parce que je ne sais pas s'il y a encore beaucoup de monde qui parle latin au Vatican. Enfin, il y en a encore assez pour traduire en latin les encycliques. Qui sont, je pense, rédigés en italien ou en anglais. Mais le Vatican met à jour, ça se trouve facilement sur Internet, un lexique de la latinité récente, Lexicon Recentis Latinitatis. Alors, l'ordinateur, je ne sais pas trop, ferait trouver un truc genre calculator, chose comme ça. Mais je pourrais vous parler d'un match de foot en latin, par exemple. Le gardien de but, ça se dit le portier du filet, janitor retis. Bon, et quand on marque un but... C'est une violation du filet. Oui, l'otio. Donc, violatio reti, c'est ça.
Allez-y, là, monsieur Mbappé, comment on dit mettre un but en latin?
Il faudrait que je le contacte, ça pourrait enrichir ce que
tu... Oui. Non, mais, donc, comment dit-on, je mets un but en football?
Alors, donc, le foot, ça se dit... pediludium, donc le jeu avec les pieds. Alors je mets un but, je ne sais pas, accipio, willolationem, retis, quelque chose comme ça. Quoi.
Bon, il y a des langues qui ont simplifié et qui font goal. Voilà, d'accord. Alors, mais par exemple, un Brésilien qui rencontre un Français qui ne parle pas le portugais, le Brésilien ne parle pas le portugais, est-ce qu'il pourrait se comprendre en se parlant en latin?
En théorie, oui.
Les cardinaux du monde entier, quand ils viennent, alors... ils se parlent en latin ou c'est bidon, ils parlent en anglais
Ils parlent en anglais ou en italien.
Ah oui.
Ça, je crois. Oui. Bon, effectivement. Oui.
Parce qu'il y a la photo de Macron avec tous les hommes d'État français, tous les hommes d'État, je veux dire, de l'Union européenne, qui sont en train de cogiter, à propos de l'Ukraine.
Oui, ils ont quelques sujets.
Et j'ai vu sur les photos, il y a aucun interprète.
Oui.
Moi, au Parlement européen, j'avais toujours l'habitude. Et toujours... Alors, soit les interprètes sont partis pour la photo, soit peut-être la langue commune, c'est devenu l'anglais, et tout le monde se parle en anglais. Oui. Et l'anglais, chers auditeurs, écoutez bien, n'est pas une langue officielle de l'Union européenne. Ah non, 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 non. Parce que les Britanniques étant partis grâce au Brexit, Malte, dont c'est la langue, ils avaient exigé au traité de Maastricht de garder le maltais, donc ils ont perdu l'anglais, et les Irlandais, pareil, le gaélique. Donc, on s'est aperçu, après le Brexit, que l'anglais, on ne pouvait plus le parler. On allait revenir au français. Et dans sa grande sagesse, à la Commission européenne, ils se sont dit, non, c'est quand même pas possible, parce qu'effectivement, quand un Bulgare parle à un Polonais, il y a 50 ans, il se serait parlé en russe. Là, il se parle en anglais, donc on n'allait pas abandonner l'anglais. Et alors, on a inventé un truc, c'est une langue de travail. Voilà, et c'est pour ça qu'on est envahi par l'anglais dans les institutions européennes. Bon, revenons, ne perdons pas notre latin. Je sais pas, le char de Bénure.
Oui.
C'est la Rolls-Royce des chars. Comment est-ce qu'on dit ça? Alors ça, c'est un mot qui existait.
Oui, c'est courrousse, le char, effectivement. Ça me rappelle une anecdote. Il y a quelques années, lors d'une réunion entre les professeurs qui préparaient au concours et puis le jury de l'école des chartes, nous avions une discussion assez animée pour savoir comment traduire automobile. Bon, pour ma part, je trouve assez cloche de proposer des sujets, de thèmes qui mettent ainsi en jeu des réalités qui sont tout sauf antiquisantes. Et le jury s'était un petit peu moqué des candidats qui avaient proposé un courus mechanicus. Moi, je trouvais ça plutôt bien. un char mécanique. Alors, pour contrer, j'avais dit, bon, qu'est-ce que vous voulez alors? Qu'on dise bagnola? Bon, c'est ça. Mais enfin, bon.
Oui, d'accord. Mais... Alors, on a cité donc la guerre des Gaules, des Bello Gallico. Jules César, est-ce que c'est l'auteur latin le plus connu?
Bonne question. Ça dépend un peu des époques. Bon, à notre époque, le socle commun, c'est quand même César et Cicéron. Effectivement.
Oui, Cicéron, oui.
Oui, mais ce ne sont pas forcément les plus marrants. Hein. Pendant très très longtemps, l'Antiquité tardive, le Moyen-Âge, c'était plutôt des poètes comme Ovid, qui est assez léger, des histoires marrantes, les métamorphoses et tout. Quoi. De nos jours, je pense que c'est César et Cicéron, oui.
Quintus Ennius, qui était le premier grand, disons, écrivain latin, enfin, de oui. littérature romane, il n'est pas très connu, pourtant.
Non, bah, de toute façon, il ne reste pas énormément de choses de lui. Hein.
Ah, c'est, voilà, c'est ça. Voilà. Enfin, c'est, oui.
Il y reste quelques citations ici ou là. Je ne sais pas, au total, si ça donnerait 3 pages, c'est tout. Enfin, il est souvent cité par des auteurs postérieurs, quoi, parce qu'il a eu une grande influence, effectivement, sur l'histoire et la poésie latine.
Alors, on connaît Terence,
oui, hein, ça oui.
c'est, et non pas Terence Hill, mon nom est personne, qui est la musique du générique de notre émission, vous l'avez bien connu, et il y aura un remake, j'ai lu ça récemment. Oui,
ah bon,
à 85 ans, Terence Hill va refaire un remake de Mon nom est personne. Voilà, petite parenthèse, digression. Stas, que j'aime beaucoup, mais qui n'est pas très connu, je crois.
Non, il me semble effectivement que récemment, j'en ai parlé avec quelqu'un. Oui, c'est le roi des pique-assiettes, je crois.
Oui, c'est ça.
Non, c'est vraiment un seigneur.
Flagorneur.
Oui, le flagorneur, oui, effectivement. Oui.
Autrement, Ovid, hein, bon, oui. connu. Tite-Live.
Oui. Alors, dans les historiens, oui, Tite-Live, auquel je me suis beaucoup intéressé.
Sénèque,
bon, comme moraliste, ouais, philosophe. Voilà. Là, on commence à avoir tous les écrivains de première division, si je puis dire.
Ah oui. Et Virgile, alors?
Et Virgile, oui, bah, bien sûr. L'Énéide, voilà. Arma, Wirumque, Cano, le début de l'Énéide, n'est-ce pas?
Oui.
Je chante le héros, et c'est où fait, etc. C'est bien, d'ailleurs.
Et dont le grand spécialiste de Virgile, j'ai dit toujours ça par provocation, c'est Brasillac.
Oui.
Que l'on n'a pas le droit d'aimer, mais qui est éteint.
Là, il s'agit uniquement de l'érudit, hein, du latiniste, donc on ne parlera pas du reste.
Voilà. Horace.
Oui, qui a aussi une très grande influence. J'aime bien, notamment, je ne veux pas être cuistre, mais à la fin de son livre des Odes, Horace dit « Exegi monumentum aere perennius ». J'ai érigé un monument plus durable que l'Erin. C'est un cri de triomphe qui montre que la littérature permet la survie, quoi, une sorte d'immortalité. En tant que littéraire, ça me va droit au cœur.
Oui. Alors, il est, je crois qu'il est célébré par Boileau aussi, hein,
dans
l'art poétique.
Voilà.
Voilà. Et alors, j'ai lu dans Proust hier, parce que de temps en temps, je me fais une page de Proust, que Proust dit le gentil Boileau, j'aurais dû le noter, mais voilà, il a un petit mot condescendant pour Boileau, en disant le sympathique Boileau, c'est pas sympathique, mais un mot comme ça, voilà. Oui, voilà. Pline l'Ancien.
Oui, c'est ça. Je reviens un tout petit instant, effectivement,
à Horace.
Au rapport entre Horace et Boileau. Il est certain que Boileau a pompé vraiment l'art poétique d'Horace, hein. C'est la fameuse doctrine de l'imitation des anciens.
Mais il n'y avait pas de droit d'auteur à l'époque.
Voilà. Ouais. De toute façon, Horace était mort depuis plus de 70 ans, donc il n'y avait pas de problème.
Ah oui, donc ça, j'en ai... en vain qu'au Parnasse, un téméraire auteur pense de l'art des vers atteindre la hauteur. S'il ne sent point du ciel l'influence céleste, ensuite ça rime avec funeste. J'adore l'art poétique.
Oui, moi aussi, c'est plein de préceptes de sagesse, pas seulement littéraire. Hein,
Les choses
avant
bien
donc
dites.
Que d'écrire, apprenez à penser, par exemple, des choses comme ça. Bon, ça, oui.
Oui.
Qui ne sait se borner, ne sut jamais écrire. Enfin, bref.
Alors, on était en train de faire une digression sur Horace. Vous vouliez dire autre chose encore?
Non, je crois que j'ai fermé la parenthèse.
Ah, d'accord. On est passé à Pline l'Ancien.
Voilà, c'est ça, oui. Alors, c'était l'universalisme made in antiquity, si je puis dire. Quoi. Alors, il y a beaucoup d'âneries, hein, effectivement, par rapport aux découvertes de la science moderne, mais c'était un effort encyclopédique tout à fait extraordinaire. Alors, cela dit, c'est très technique, hein, donc on ne le pratique plus guère de nos jours.
Et Saint-Augustin ?
Oui, alors là, c'est autre chose.
Et Saint-Ambroise ?
Ah ! Qu'on ne saurait trop célébrer, effectivement. Votre saint patron, en quelque sorte.
Alors, est-ce que l'étude du latin permet de mieux aborder l'étude des langues européennes ?
Sans aucun doute, enfin du moins, pour toutes les langues dites latines, c'est sûr, je baragouine un petit peu d'italien, mais mon italien, c'est du latin abattardi, quoi.
Ah oui.
Je peux lire un journal espagnol ou portugais, alors que je ne parle pas ces langues, mais à l'écrit, avec les racines latines, ça passe assez bien, quoi.
Mais alors, pourquoi est-ce qu'on dit que le latin est une langue morte ? Puisque dans le français, il y a tellement de mots latins, enfin voilà. Alors, pourquoi morte ?
Le latin, langue morte, horribile, auditu, horrible. Alors, oui, il y a à peu près 85% des mots français qui viennent du latin. C'est quand même pas tout à fait négligeable, effectivement, c'est sûr.
Oui. Comme scrupulus.
Ah oui.
Le petit caillou qu'on a dans sa chaussure et qui ne vous empêche pas de marcher, mais qui pèse quand même sur les kilomètres que l'on fait, les lieux que l'on fait, et qui pèse ensuite sur la conscience. Donc, comment on appelle ça ? C'est un glissement
sémantique.
Sémantique,
oui,
donc
tout à
le
fait.
Scrupule.
Oui, c'est le petit caillou qui vous agace, effectivement.
Voilà. Non, donc l'étymologie, c'est une science absolument fabuleuse.
Enfin, c'est passionnant.
C'est enthousiasmant, oui.
Oui, tout à fait.
Oui. Mais alors, j'ai cherché un petit peu pour voir des cours de latin. Alors, vous allez tomber de votre chaise, cher Christian Gouillard, mais on ne dit plus classe de latin.
Ah bon, vous m'apprenez quelque chose.
Ah oui. Alors, c'est langue et culture de l'Antiquité.
Ah oui, dans la dénomination officielle, oui.
Ah,
oui.
Quel est le ministre de l'Éducation qui a eu cette idée folle ?
Rejetons-le dans les poubelles de l'histoire. Oui, ça, c'est quand même un signe de l'abattardissement, effectivement, aussi. On cherche à s'excuser, en quelque sorte, de faire du latin, quoi.
Hein. Oui, c'est ça. Et
on noie ça sous le, entre guillemets, civilisationnel, ou je ne sais
voilà,
pas quoi.
Voilà, enfin, pour être plus attractif pour les élèves.
Du moins,
tout
le
ça.
Pense-t-on, parce que je ne suis pas sûr, en fait, voilà. Que ce soit vrai. Mais c'est comme ça qu'on cherche à vendre le latin, quoi, c'est sûr.
Alors, cher Christian Gouillard, monsieur le prof de latin, j'ai gardé pour la fin...
Mon Dieu, je tremble.
Je dirais qu'un seul mot, Gaffio.
Ah, Félix, l'heureux Félix. Gaffio, oui.
Alors, parlez-moi un peu du Gaffio. Alors, il y a le Quichera, hein, je crois que c'est l'inverse.
Oui.
C'est le dictionnaire français
latin. Le thème latin, c'est ça.
Voilà. Oui. Mais le Gaffio, c'est celui qu'on avait à l'école, enfin ceux qui ont eu la chance de faire du latin. Alors, je sais aussi, mais je l'ai appris plus tard, que Gaffio faisait des vers salaces.
Hein, oui.
Il a écrit, oui. Mais quand même, racontez-moi l'histoire de Gaffio.
Bon, alors...
Donc, c'est le dictionnaire de latin, le Gaffio, le
c'est
gros,
ça. Voilà. Oui, c'est la somme en français, et même d'ailleurs pour les latinistes étrangers, c'est vraiment la référence, effectivement. Alors, oui, le personnage de Gaffio était immensément savant en latin. Cela dit, c'était un caractère absolument détestable. Notamment, il était prof à la Sorbonne. Bon, ce qui prend un latiniste est quand même un aboutissement, mais il s'est fait nommer doyen de la fac de Besançon.
Oui.
Pourquoi ? Parce que là, il pouvait engueuler tout le monde.
Parce qu'il était meilleur que les autres.
Surtout, il était le grand patron, quoi, hiérarchiquement. Oui. Il était peut-être meilleur que les autres aussi.
Mais il a mis combien de temps à écrire son dictionnaire ?
Ça, je ne sais pas. Enfin, c'est l'œuvre d'une vie, hein, ça c'est clair.
Oui.
Bon, cela dit, comme tous les profs de fac, ou beaucoup, il exploitait aussi pas mal ses étudiants et tout, pour faire des corpus, des corporats, devrais-je dire, etc., etc.
Voilà. Alors, j'ai une petite anecdote, là, pour conclure notre émission, notre épisode. J'ai été pion au lycée de Haguenau à un certain moment, et donc, le jeudi après-midi, à l'époque, hein, les heures de colle, on surveillait les élèves. Et donc, je leur donnais le Gaffio, même ceux qui ne faisaient pas du latin, et ils devaient recopier une seule page. Et bon, j'étais aussi pigiste aux dernières nouvelles d'Alsace, donc je ramenais des grandes feuilles du journal, hein, que je récupérais, un peu épaisses, et ils devaient faire une page de la... Et je rêvais de faire le Gaffio écrit à la main, recopié par des élèves. Je dois avoir 4 ou 5 pages, pas plus. Non pas parce que j'étais pas un pion pas assez sévère, mais parce que ça ne fonctionnait pas. Allez, pour conclure, qu'est-ce qu'on pourrait se dire en latin?
Je ne sais pas.
Exegi monumentum aere perennius.
Oui, c'était mission.
J'ai érigé un monument plus durable que l'airain.
Effectivement, ça peut marcher. Oui, ça peut marcher aussi pour l'audiovisuel. Pourquoi pas, effectivement. Oui.
Voilà. C'était l'épisode numéro 105. Pas de quartier pour le latin. Christian Gouillard, tarte tatin. La semaine prochaine, nous irons sur les chemins de l'insolite qui va vite, parfois sans suite, pour se noyer dans des fuites. Vous l'avez bien connu sur Radio Judaïque à Strasbourg, tous les mardis à 11h30 et le dimanche à midi, à la technique Thomas Marinelli. Et mon nom, tu quoque mi fili, ça rime, c'est Ambroise Perrin.